Bonjour, c'est Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet.
Chances are, 'cause I wear a silly...
Née en France d'un père guinéen et d'une mère grecque, la vocaliste de jazz Elisabeth Contomanou a tout d'une diva à la crinière flamboyante et au charisme criant. Elle chante dans le monde entier les grands standards du blues et de la soul, sans oublier ses chansons autobiographiques. Des propos racistes dont elle a été victime de son enfance, à l'absence d'un père qu'elle n'a jamais connu, la chanteuse aborde sans gêne ses blessures du passé. Elle a partagé sa vie entre Stockholm, Paris et New York, des voyages jalonnés de rencontres décisives qui ont influencé sa carrière musicale depuis 20 ans, avec des musiciens exceptionnels. Elisabeth Contomanou s'adresse à l'âme et nous emporte dans un tourbillon ensorcelant. Elle a un style incomparable qui s'inscrit dans la tradition des grandes chanteuses de blues comme Billie Holiday ou Ella Fitzgerald. Élue meilleure vocaliste de jazz aux Victoires de la musique 2006, Elisabeth Contomanou a sorti ces dernières années des albums remarquables. Elisabeth, bonjour.
Bonjour.
Vos trois fils, Donald, Joey et Gustave, sans compter le petit dernier qui s'appelle Théo, mais lui n'est pas sur scène, ont hérité du sang ciné de la musique de leur mère.
Bah, disons que je pense qu'on est une famille de griots, donc on préserve la musique à travers les générations, et c'est très bien comme ça. Moi, je le vis bien, et eux aussi, et c'est formidable de pouvoir tous se trouver sur scène et de jouer tous ensemble.
Quel âge ont-ils ?
Alors, 29, 23, 18 et 10, bientôt 10.
Alors, vous avez l'air toute jeune, alors c'est très très étonnant de voir que vous avez un fils de 29 ans. Qu'est-ce que ça fait de chanter, d'être sur scène avec ses enfants ?
Ben, pour moi, ça représente énormément parce que je suis orpheline. Et donc, pour moi, c'était très important d'avoir des enfants très jeunes et finalement de grandir avec... j'ai grandi avec mon fils Donald, on a grandi ensemble. Et aujourd'hui, avec le recul, je me demande si je ne l'ai pas fait exprès, en fait, pour avoir une bande de musiciens avec moi. C'est une plaisanterie, hein. Mais un peu quand même.
Alors, comme je le disais dans cette introduction, vous avez vécu dans tous les pays. Vous vivez toujours en Suède ?
Non, là, je viens de venir en France. Il y a 2 mois que je vis en France maintenant. Et j'ai vécu donc en Suède juste avant. Et c'est un pays que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de nature, beaucoup de forêts. Et il y a un ciel et une lumière vraiment fantastiques.
C'est la première photo que vous avez choisie, puisque vous avez, merci beaucoup, accepté de choisir des éléments, comme tous les invités de cette émission, des objets, des photos et des senteurs. Et cette première photo, eh bien, c'est la Suède, c'est la vue sur les îles vues de chez vous.
Absolument. Donc, on voit les îles et on voit les bateaux qui passent. On voit un ferry aussi qui va de mon île jusqu'à d'autres îles. Et puis bon, on voit justement l'horizon et l'infini. Et c'est formidable de pouvoir se lever et voir exactement le temps qu'il fait. C'est assez rare.
Ça nous emmène directement au deuxième élément que vous avez choisi, parce que je me disais que peut-être en regardant cette vue exceptionnelle, eh bien vous pouviez composer, vous pouviez penser à de nouvelles mélodies. Et c'est l'objet que vous avez choisi, c'est un enregistreur, un petit dictaphone.
Absolument, parce que c'est quelque chose que je garde toujours avec moi. Mais par contre, j'en ai pas vraiment besoin quand je suis chez moi, parce que quand je suis chez moi, bon, ben, je peux vraiment soit me mettre au piano ou alors juste penser à la musique. Mais quand je suis, par exemple, en voyage, j'ai mon dictaphone et comme ça, si j'ai une idée de mélodie ou même de mots qui vient, je peux tout de suite l'enregistrer. Et voilà, ça me fait gagner beaucoup de temps et c'est très... très pratique.
Qu'est-ce qui vous vient en premier, des paroles en français ou en anglais?
En anglais. C'est, j'ai toujours écrit en anglais, donc c'est ce qui me vient. C'est ce qui me vient immédiatement. Ouais. Je pense que écrire en français, c'est complètement différent et c'est très difficile. Hein, c'est, je pense que les poètes français ont un talent immense et je pense que c'est beaucoup plus difficile de manipuler la langue française.
Elisabeth Contant-Manou, vous parlez combien de langues ?
J'en parle trois.
D'accord, le suédois, l'anglais ?
Ouais, et le français.
Voilà, je me demandais si vous parliez le grec comme votre mère, le guinéen comme votre père.
Non, on me parle souvent, on me dit souvent, alors, parlez grec. Et je dis non, je ne parle pas grec. Mais j'aurais bien aimé, j'aurais beaucoup aimé parler cette langue. Mais peut-être que je l'apprendrai par la suite.
Quand vous serez une très vieille dame dans très longtemps. La deuxième photo que vous avez choisie, c'est une photo qui est étonnante. Jamais personne dans cette émission n'a choisi ce genre de photo. Vous nous la décrivez ?
En fait, c'est la tombe de mon père.
À Montmartre,
au cimetière Montmartre. Et c'est une tombe que moi-même j'ai découvert il y a quelques mois. Donc pour moi, c'est très important et c'est très présent. En fait, on m'a envoyé la photo de la tombe de mon père avant que je puisse y aller. Donc, c'est une photo importante pour moi. Et ensuite, j'y suis allée, évidemment, me recueillir sur cette tombe. Donc, c'est mon père. J'ai fait sa découverte l'année dernière, au mois de mars. Et donc, pour moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Le fait de retrouver mon père, bien qu'aujourd'hui il soit plus de ce monde, mais j'ai quand même retrouvé mon identité. Et mon père, pour continuer à parler de lui, était musicien de jazz. Il jouait dans les années 70 à Paris. Il était vraiment... mon père s'appelait Joe Maka et c'était un musicien de jazz qui tournait avec pas mal de musiciens américains. Mais aussi, il avait toute une flopée de gens qui le suivaient un peu comme des disciples. Et donc, parce que c'était parmi les Africains de l'époque, les musiciens qui venaient en France, c'était un des seuls à pouvoir écrire la musique. Donc, il écrivait pour ses amis, il écrivait la musique, et puis aussi... il enseignait le saxophone.
Vous saviez que votre père était musicien ?
Non.
Alors c'est quand même extraordinaire que vous soyez devenue musicienne, vous aussi.
Mais c'est quand je parle de griots, je parle vraiment de ça. Je parle de génération en génération. Il y a des gens qui sont musiciens. C'est exactement ce qui se passe dans la famille de mon père. C'est-à-dire que mon père était musicien, ses frères aussi, et son père aussi, etc. Donc, il y a des choses vraiment qui sont, on va dire, transgénérationnelles hein, et qui se transmettent, voilà, comme ça.
Alors, retrouvez vos racines avec ce père qui a toujours finalement été un peu omniprésent, même si vous ne saviez rien de lui. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui a bouleversé vos enfants, vos fils ?
C'est-à-dire qu'en fait, c'est mes fils, hein, c'est un de mes fils, Joey, c'est lui qui a fait cette prière en 2007. C'était à la nouvelle année, vous savez, quand on fait les vœux, etc. Là, il a dit, j'aimerais qu'on puisse retrouver notre grand-père. Et moi, je pensais, j'avais déjà la sensation que mon père était décédé de toute façon. Mais donc, on a tous fait ce vœu ensemble et on a été exaucés l'année d'après.
Bon, je suis toute émue parce que vous me dites. Alors, je vous propose d'écouter un premier morceau de musique. Vous avez choisi celui-ci.
Mon In Law, c'est un de mes derniers enregistrements. C'est sur un disque qui est en duo avec le pianiste Laurent Courtaliac. Et donc, c'est un disque qui a été enregistré l'année dernière et qui est sorti en octobre dernier. Voilà. C'est un standard de jazz qui a été chanté par Ella Fitzgerald ou Billie Holiday aussi.
Alors voilà, on va écouter ce morceau-là et puis juste après, eh bien, on découvrira une odeur que vous aimez beaucoup.
Morning low, my sweet man, I love him so, though his meanness can be. He is the kind of a man, he's the kind of a woman like me. Gonna die if my sweet man should pass me by. If I die, where it be? Is the kind of a man needs the kind of a woman like me.
C'est Elisabeth Contomanou qui est notre invitée aujourd'hui dans Portrait. Elisabeth, vous avez des odeurs dans le nez.
Effectivement. Alors, par exemple, j'aime l'odeur des livres. Et ça, depuis que je suis enfant, quand j'avais un livre entre les mains, il fallait que je le sente. C'était. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Voilà. Et pour moi, c'est pour ça que j'achète beaucoup de livres.
Mais aujourd'hui, ils ont changé d'odeur, les livres.
C'est vrai, c'est vrai. C'est plus. Et plus cette odeur de papier en bois, on va dire.
Oui. Et l'odeur d'encre,
c'est peut-être l'encre, c'est peut-être l'encre. Je ne sais pas ce que c'est.
La colle aussi, peut-être, je ne sais pas.
C'est possible, mais bon, il y a des bouquins qui sont un peu, qui sont pareils, mais ça a changé, c'est vrai.
Des bouquins de bouquinistes
Je ne sais pas, j'avais un livre de latin, et je pense à ce livre-là, parce que j'adorais cette odeur. Et en fait, le latin, moi, ce n'est pas vraiment mon truc, mais je pense que je l'avais acheté pour l'odeur. Vraiment, honnêtement. Ouais. Mais j'ai plus livres aujourd'hui. Mais voilà, j'aime l'odeur des bouquins.
Une autre odeur que vous aimez énormément, c'est l'odeur du sauna. Alors racontez-nous ça, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, nous, surtout que c'est l'odeur du sauna, mais pas ici en France.
Ouais, c'est vrai, l'odeur du sauna, ben, c'est... Comment expliquer ? C'est très particulier, parce que ça sent... Oui, en Suède... Ben, ça sent le propre, et puis le sec, et la chaleur. Il y a une odeur de bois, qui est le bois du sauna. C'est du pin, c'est souvent du bois de pin, et c'est pour ça qu'il y a cette odeur. D'ailleurs, ça a peut-être un rapport avec l'odeur des livres. et donc, c'est une odeur, je sais pas, c'est une odeur dans laquelle je me sens bien. Et puis, aussi, dans le sauna, on peut mettre... des essences, justement quand on verse de l'eau sur les pierres, il y a aussi des pierres brûlantes qui sont là, donc on peut mettre aussi des essences. Et donc comme ça, c'est très sensuel et c'est très propre.
Alors ça, c'est quand même quelque chose que vous décrivez, que nous connaissons ici, puisque ici, par exemple, au Havre, nous avons le bain des docks avec un sauna très chouette. Et voilà, vous pouvez tout à fait aller faire ça avant de repartir.
C'est bien, c'est bien. Peut-être que j'irai.
Cette odeur du sauna, elle est aussi quelque chose qui est partagé avec d'autres. Quand on va au sauna, comment on fait ? On y va seul ou on y va avec des copines ?
En fait, en Suède, on ne va pas au sauna. C'est soit les gens ont un sauna chez eux.
Vous en avez un ?
Non, mais en fait, je suis allée... Mes beaux-parents de l'époque avaient un sauna, donc j'y allais tout le temps. C'est très simple, le sauna. Il y a une douche et il y a un sauna. C'est ensemble. Ou alors on va à la piscine et il y a un sauna. Et d'ailleurs, je suis très malheureuse parce qu'à Paris, depuis que je suis à Paris, il y a des piscines. Alors il y a une piscine où il y a un sauna, mais on ne peut pas aller dans le sauna directement de la piscine. Il faut se rhabiller, il faut ressortir, et voilà, on peut aller au sauna. Et je trouve ça absolument incroyable. Bon, voilà. Donc, c'est un voilà, un des problèmes de cette piscine, mais il doit y en avoir d'autres,
j'imagine. Les habitudes ne sont pas les mêmes.
Ouais, c'est ça.
Elisabeth Contomanou, vous avez choisi un autre objet, un objet que vous portez. Mmh. C'est une merveilleuse bague afghane.
Ouais.
Elle vous a été offerte.
Elle m'a été offerte par une amie de longue date qui s'appelle Liliane et qui, cette amie, elle est dans ma vie depuis plus de 20 ans. Et donc j'ai voyagé, je suis partie, mais on ne s'est jamais perdu de vue. Et c'est quelqu'un qui fait des cadeaux. Et donc elle m'a offert cette bague que j'aime beaucoup et que mon fils a mordu, le plus jeune. Il a mordu ici.
Et il a fait un petit trou avec ça.
Il a fait un petit trou. Et c'est une bague que je porte tout le temps. Enfin, dès que je sors, dès que je suis en dehors de chez moi. Donc, c'est. Ça me rattache à ma maison, on va dire.
Même sur scène, vous la portez aussi ?
Sur scène, je la porte. Et en particulier, sur scène. J'aime avoir cette bague. C'est important.
Comment est-ce que vous aimez vous vêtir quand vous êtes sur scène ?
Moi, j'aime les robes longues, en principe. J'aime pas trop montrer mes jambes. J'aime montrer mon décolleté, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux chez moi. Je montre pas trop mes jambes. Et donc, j'aime bien les robes longues. J'aime beaucoup ça, parce que je pense que c'est un rêve d'enfant. Quand j'étais enfant, j'ai vu Maria Callas chanter. Et c'est ce qui m'a donné le déclic du chant. Je l'ai vu chanter dans une robe absolument somptueuse et sa voix et son chignon, enfin, je ne sais plus ce qu'elle avait. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment voulu chanter.
Alors comment ça s'est passé ? Vous avez ce rêve de petite fille de chanter et puis on prend des cours. Vous étiez où à ce moment-là ?
Non, pas du tout. J'habitais à Lyon. J'ai pas pris de cours parce que j'avais pas. J'étais dans une famille d'accueil et par conséquent, j'avais pas du tout une écoute. Enfin, j'étais pas écoutée, on va dire, par rapport à ça. Donc, les gens, quand vous leur dites oui, j'aimerais être chanteuse, pour eux, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe qu'à la radio ou à la télé. Donc, pour moi, c'était une réalité, mais pour les gens qui s'occupaient de moi, c'était juste un fantasme, quelque chose. Donc, mais ça n'en était pas, puisque voilà, je suis là.
Alors, comment est-ce que vous avez fait pour parvenir justement là, puisque vous êtes quand même Victoire de la musique en 2006. C'est une très belle ascension.
Je me suis accrochée à la musique, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu prête à pouvoir enregistrer ou à pouvoir chanter sur scène. Et donc j'ai commencé à chanter très jeune. J'avais 16 ans quand je suis montée sur scène la première fois. Et puis après, j'ai continué, j'ai jamais cessé d'être une chanteuse.
Vous avez pris des cours ?
Non, je suis parce que je chante du jazz. Si j'avais été chanteuse classique, évidemment, j'aurais pris des cours. Mais quand on chante du jazz, il n'y a pas de cours de jazz, ça n'existe pas. Quelquefois, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, vous pouvez nous donner un cours ?» Je dis non, parce que honnêtement, très honnêtement, pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, les seules choses qu'on peut faire pour apprendre à chanter du jazz, c'est mettre des disques et s'inspirer des plus grandes chanteuses qui sont venues avant nous, les maîtresses et les maîtres de cette musique. Alors, il y a Louis Armstrong, il y a Billie Holiday, il y a Ella Fitzgerald. Voilà, pour moi, c'est ça.
On va écouter un autre morceau de musique et puis ensuite, j'aimerais que vous nous expliquiez comment ça se passe justement avant un concert pour une chanteuse comme vous, une vocaliste de jazz. Comment est-ce qu'on se prépare ? On écoute Back to My Groove.
Back to My Groove, voilà.
Back to My Groove.
tied down and confused. Whenever love treats me wrong and gives nothing, I gotta go back to my boo-boo. Whenever love takes me out to drop me down, leaves me upside down and confused.
C'est Elisabeth Contomanou qui est notre invitée dans Portrait aujourd'hui. Elisabeth, comment fait-on pour se préparer avant de monter sur scène? Combien de temps il faut pour chauffer sa voix? Comment ça se passe?
Alors ça, c'est très 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 personnel, hein, parce qu'en tant que chanteur de jazz, si vous aviez demandé à Billie Holiday qu'est-ce qu'elle faisait avant de monter sur scène, elle vous aurait dit bon, je prends quelques whisky et j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'on n'est pas dans le chant classique. Quant à moi, vraiment tout dépend, parce que j'ai souvent mon fils qui est là. Donc, en fait, ce que je fais avant, c'est souvent je m'assure que lui aille bien, qu'il soit bien installé. Et puis là, moi, je suis souvent dans le stress avant de monter sur scène. Donc, je n'ai pas vraiment le temps de me chauffer la voix. Mais par contre, si j'ai un moment dans la journée, et puis s'il y a une balance avant le concert...
Donc, une balance, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est une façon de régler le son pour que tout soit bien harmonieux.
Voilà, exactement. Là, donc, effectivement, j'ai le temps de chanter et de chauffer ma voix. C'est là que j'en profite.
Vous êtes une mère poule?
Poule, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, je suis une mère et par conséquent, j'ai toujours mes poussins derrière moi.
Votre dernier petit poussin, là, il est avec vous lorsque vous partez en tournée?
Oui. Ouais, il est avec moi et puis je pense qu'il est ravi d'être là. Il écoute, en principe, il s'assied, il écoute le concert jusqu'au bout et puis après, il me dit comment c'était. Il dit « Ah, bah tiens, cette chanson, je ne savais pas que tu la chantais, ou celle-ci, je ne l'ai jamais entendue avant, ou j'ai bien aimé ça, ou j'ai pas trop aimé ça, enfin voilà. »
Son avis est important.
Ça fait partie de ma vie, voilà.
Quand vous étiez petite fille, vous vouliez être chanteuse. Mm-hmm. C'est quelque chose qui vous a toujours... qui vous a fait grandir en quelque sorte. C'était votre ambition future? Vous saviez que vous alliez y arriver?
Je savais que j'allais être chanteuse. Ça, j'en étais certaine. Mais la musique a toujours primé sur le fait de devenir quelqu'un qui est sur scène. C'était la musique qui était pour moi très, très importante. C'était pas tellement devenir un personnage médiatique qui était important pour moi. C'était vraiment de créer de la musique. Et donc, j'ai toujours mis la musique avant toute chose. C'est pour ça que je suis très exigeante avec ce que je fais. Extrêmement, d'ailleurs.
Et si vous n'aviez pas été chanteuse, qu'auriez-vous pu être?
Peut-être j'aurais été psy. Ou alors j'aurais été pasteur, peut-être.
Vous êtes donc protestante?
Oui, je suis croyante. Je suis protestante.
De l'Église réformée.
Voilà. Et vous avez l'air de bien connaître. Je rigole. Et donc, ouais, peut-être j'aurais été pasteur. Mais là, bon, je ne peux pas tout faire. Hein. Pas de chanteuse et pasteur. Mais en chantant, il y a quelque chose d'un prêcheur aussi. C'est clair, quand on chante, on fait de la musique... ça fait partie un peu de prêcher quelque chose aux gens.
Elisabeth Contomanou, vous chantez du gospel aussi?
En fait, je ne chante pas de gospel, j'en écoute. J'ai une chanteuse que je porte très, très haute dans mon estime, c'est Malia Jackson. C'est la grande chanteuse de gospel qui vivait dans les années 50. Et j'adore sa voix et et j'adore ce qu'elle raconte dans ses chansons.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission, Elisabeth Contomanou. Et voilà, vous avez sorti un dernier album qui s'appelle Bring the Blues en 2008. Je vous conseille à vous qui nous écoutez de l'écouter avec beaucoup de soin. Il va vous emmener dans des voyages délicieux. C'était Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet.
Chances are, 'cause I wear a silly grin the moment you come.